Alors, je voulais juste citer quelques, montrer quelques exemples de façon à vous imprimer vraiment, à exemplifier un petit peu tout ce qu'on a discuté ce matin. On a parlé tout à l'heure la dernière fois des antagonistes de l'endothéline, des récepteurs qui avaient été découverts par Martin Clausel et par des chercheurs donc à Roche, qui avaient été la base de la fondation d'Actelion. Et je voulais un petit peu vous décrire ce qui se passe en vérité. Juste pour vous donner encore une idée du timing, enfin du temps, 88, la découverte de l'endothéline, 6 ans pour arriver au bosentan, à la recherche, donc 6 ans de recherche préclinique, et on est avec cet antagoniste. Au bout de 6 ans, on est avec ce nouveau produit et on est à l'intérieur de la société. Il y a des témoins ici dont je ne vais pas pouvoir raconter d'histoire parce que je vais essayer donc de dire la vérité, mais on a ce produit qui est le premier produit capable de bloquer ce récepteur. Et donc on se retrouve ici avec un produit qui a plusieurs effets chez l'animal. Il entraîne une vasodilatation, donc il empêche la constriction des artères. Il empêche que ces artères deviennent épaisses, donc un effet anti-hypertrophie. Il empêche la fibrose de survenir. Je vais montrer quelques exemples. Et il est anti-inflammatoire. Quelques petites études, simplement pour montrer que si on peut empêcher la vasoconstriction, par exemple avec de l'acétylcholine, grâce au bosentan, des artères. Donc, si on prend des artères, vous voyez des artères pulmonaires, que l'on met en mimiquant, en faisant comme si on était en haute altitude, en simulant l'altitude, on voit que les artères deviennent épaisses, vous voyez, à gauche. Et si on donne le traclear, les artères sont beaucoup plus fines, donc on empêche l'épaississement des parois vasculaires. On empêche la fibrose. Ici, on avait donné un produit qui est un produit anticancéreux, qu'on appelle la bléomycine, mais qui a cet inconvénient terrible de donner une fibrose. Vous voyez un aspect un peu plus granuleux des poumons, et on peut prévenir cette fibrose avec le traclear, le bosentan. Et si on donne des éléments inflammatoires, pro-inflammatoires, par exemple, on utilisait un produit qui s'appelle le Cefadex, vous voyez aussi qu'on prévient de façon très significative l'inflammation avec le traclear ou le bosentan. Voilà, alors c'est ça qu'on savait, on savait ça. Alors on a commencé à tester soit chez Roche, à ce moment-là on était chez Roche, et surtout en donnant à toutes les universités du monde, puisqu'on avait, c'était la première bloqueur de l'endothéline. Et puis, on a commencé à tester dans des modèles plus sophistiqués, ce que j'avais dit, dans des modèles. Alors, ça a été l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, rénale aiguë, l'insuffisance chronique, rénale, l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, l'hémorragie sous-arachnéenne. Tous ces modèles ont montré une efficacité du produit. Alors là, je peux vous dire, c'était plus le problème. On dirait, très bien, ça marche dans tout. Le problème, c'est que si ça marche dans tout, on ne peut pas tester dans tout. Et pendant longtemps, on était presque, je ne dis pas la risée, mais tout le monde disait, oui, mais c'est un produit qui cherche son indication. Parce que c'était, vous voyez, vraiment, c'était un processus complètement différent du processus classique de découverte. C'était un des premiers médicaments comme ça, en fait, découvert grâce à une recherche à partir du récepteur, du principe, mais pas à partir de la maladie. Dans les années qui précédaient cette phase, on essayait absolument de chercher un médicament contre l'hypertension artérielle. Donc on commençait par la maladie, on ne commençait pas par le récepteur ou par le principe. Donc évidemment, on était ici avec un choix. Beaucoup de maladies. Donc on a commencé par, premièrement, faire ce qu'on appelle la phase 1. On a vu que le produit était actif par voie orale, il avait une biodisponibilité, ce qu'on appelle, de 50%, c'est-à-dire que si on le donne par la bouche, 50% va être absorbé. On savait qu'il était assez lié aux protéines dans le plasma, ce qui était important. On savait qu'il était éliminé par le foie, avec ce qu'on appelle une demi-vie de 5 heures, c'est-à-dire qu'il diminue dans le sang, la moitié diminue, enfin, la quantité dans le sang diminue de moitié en 5 heures, donc il va diminuer 4 fois en 10 heures, et disons qu'en 2 jours, presque tout est disparu. On savait qu'on a pu déterminer qu'il était éliminé par le foie, par des cytochromes bien particuliers, qu'une partie était excrétée par la bile, que les concentrations dans le sang, avec une dose moyenne, étaient de 1,3 microgramme par millilitre, que le pic d'absorption était à 3 heures et demie, et on connaissait à peu près la quantité absorbée moyenne. Si on donnait, on a essayé de donner avec la nourriture, il ne se passe pas grande différence. Vous voyez, les deux courbes sont presque superposées, donc on peut le donner avec ou sans la nourriture, ça, ce n'est pas un problème. On a testé chez les personnes âgées, il n'y avait pas de changement de la concentration. On a testé chez des gens qui avaient une insuffisance rénale, il n'y avait pas nécessaire de changer la dose. Et que si on avait une insuffisance hépatique du foie modérée, il n'était pas nécessaire de changer la dose, mais si c'était une insuffisance hépatique sévère, il fallait diminuer la dose. Voilà. Donc on était dans les conditions, on savait comment on pouvait donner, quelle est la quantité qu'on pouvait donner. La phase 1 était terminée. C'est encore une donnée chez les malades. On a fait quelques études chez les enfants. Et puisqu'on ne savait pas quelle était l'indication, on a décidé de faire un développement qui était assez un petit peu original, on s'est dit, ben, on va essayer de faire des preuves de concept. Ce que j'ai dit, ce n'était pas une recherche de dose, mais des preuves de concept dans plusieurs maladies. Donc on a choisi la migraine, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les complications des produits anti-inflammatoires, les complications, les hémorragies gastriques des anti-inflammatoires, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est-à-dire la rupture de certains anévrismes dans le cerveau, l'hypertension artérielle pulmonaire et certaines angioplasties, vous savez, lorsqu'on fait les dilatations des artères coronaires chez des malades qui ont des obstructions athéroscléreuses des artères coronaires. Alors, évidemment, chaque étude n'était pas une étude complète. C'est évident que, par exemple, la migraine, on peut vérifier si les gens ont mal à la tête, ça c'est assez facile. Mais dans les angioplasties coronariennes, par exemple, ce qu'on a pu vérifier, c'est est-ce que le bosentan pouvait augmenter le flot de sang, mais on ne pouvait absolument pas savoir si le malade se sentait mieux ou pas mieux, parce que ça demandait des études beaucoup plus grandes. La même chose pour l'hémorragie sous-arachnoïdienne, on a simplement pu vérifier est-ce qu'on peut prévenir en mesurant, avec cette fois-ci c'était un Doppler, l'effet Doppler, est-ce que les artères se constrictent ou pas? Donc c'était des mécanismes, des preuves de concept cette fois-ci. Ce n'était pas des vraies phases 2 de recherche de doses. Je ne vais pas aller dans tous les détails, simplement vous dire que la migraine, ça n'a absolument pas marché. L'hypertension artérielle, ça marchait très bien. L'insuffisance cardiaque, ça marchait très bien, il y avait des effets sur la cardiaque. Les complications des anti-inflammatoires, ça marchait, disons, moyennement, mais avec des effets intéressants. L'hémorragie sous-arachnoïdienne, ça marchait assez bien, même très bien. L'hypertension pulmonaire, on avait un doute. Hein. À ce moment-là, c'était assez intéressant. C'est-à-dire que, il y a eu, la première étude était mal faite. Je ne sais pas dans comment ça a été fait, mais vraiment, il y a des gens qui disent que ça marchait. On a dit que c'était un produit très dangereux, puis il y a des gens qui disaient que ça marchait très bien. Nous, on pensait que ça marchait très bien. Et dans les angioplasties coronariennes, il y avait des effets qui n'étaient pas très spectaculaires. Donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait avec les antagonistes de l'endothéline, que les antagonistes de l'endothéline étaient essentiels à la croissance des fœtus. C'est-à-dire donc que si on donnait un antagoniste de l'endothéline, il y avait un risque d'être tératogène, donc d'entraîner des malformations. Donc il était évident que des indications comme la migraine, on risquait de donner à des femmes jeunes. Donc c'était une indication qui disparaissait du fait de cet problème toxicologie. La même chose pour l'hypertension artérielle. On s'est dit, l'hypertension artérielle banale, c'est pas la peine de prendre de risques parce que si quelqu'un oublie qu'il y a cet effet secondaire, la société ne peut pas prendre. Évidemment, les autorités d'enregistrement ne prendront pas de tels risques. Donc, à ce moment-là, la hémorragie subarachnoïdienne, on avait besoin d'un produit intraveineux et on s'est rendu compte que le traclir n'était pas bien toléré de façon intraveineuse. Il était bien toléré par la bouche, mais il pouvait entraîner des inflammations des veines si on le donnait en intraveineux. Donc, vous voyez qu'on a commencé à se limiter avec ces effets positifs à quelques indications. Et ce qui nous paraissait à ce moment-là le plus important, c'était l'insuffisance cardiaque. Parce qu'il y a des millions de gens qui, malheureusement, chaque année, meurent d'insuffisance cardiaque après des infarctus multiples ou une insuffisance coronarienne. Et on a donc testé. Alors, je ne vais pas passer dans tous les détails de l'insuffisance cardiaque. On a commencé par des doses énormes et on a fait une grande étude. Alors, cette fois-ci, c'est la phase 3. Hein, vous voyez, donc, on avait en phase 2 une notion de la dose, de l'efficacité sur le débit cardiaque. Dans ce cas-là, c'était le débit cardiaque. Et on va faire des études chez un grand nombre, je crois que c'était 1800 patients, 900 traités par un placebo, 900 traités par le traclir. Et malheureusement, voilà ce qu'on a observé. Si on regarde le nombre de morts chez ces malades et le nombre de gens hospitalisés, on voit qu'il n'y a pas de différence. Il y a un petit peu moins de sujets qui sont morts sous traclir, mais il n'y a pas des effets qui soient vraiment significatifs. Donc, l'insuffisance cardiaque, bien que tous les principes marchent, on n'a pas réussi à montrer chez l'homme un effet qui permettait l'enregistrement de ce produit. Et à ce moment-là, on avait regardé les données d'hypertension artérielle pulmonaire, et vraiment, pour nous, chez certains malades, on avait vu des effets dans la première étude qui nous semblaient spectaculaires. On est allé voir certains, et là je montre les noms parce qu'il y a Gérard Simoneau qui a joué un rôle très important à Paris, qui a atteint Clamart, qui avait un grand centre d'hypertension pulmonaire, et on est allé voir ces experts. Je me rappelle être venu à Paris à ce moment-là, et tous les experts à ce moment-là nous ont dit, écoutez, c'est une maladie terrible, l'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie orpheline, très rare. Et tout le monde nous a dit, ben, aucune chance avec un comprimé d'arriver à traiter cette maladie. Il lui faut des produits injectés. À ce moment-là, on avait des produits qu'on appelait le Flolan ou la prostacycline qui étaient injectés par une pompe en permanence. Je lui ai dit, un comprimé, ça va jamais marcher. Bon, on a dit, on va quand même faire une étude. Alors, cette étude, c'était une petite étude avec une maladie rare, avec quelques centres, donc à Paris, donc les meilleurs centres dans le monde, avec Rubin à San Diego. Vraiment les meilleurs centres. Et on a donné pour deux fois plus, on est chez deux, parce que pour les malades, on trouvait que on a donné 125 mg, donc je crois que c'était 30, 35 malades, et comparé à un placebo pendant 12 semaines. Et voilà, là, je peux vous dire que le jour où on voit un résultat comme ça qui apparaît, c'est vraiment un grand jour dans une société, ça apparaît pas souvent. Il y a beaucoup de souffrance, qu'on peut vous dire, beaucoup d'inquiétude, mais lorsqu'on voit ces données, là c'était l'épreuve, la durée, la longueur, des malades peuvent marcher. On faisait simplement demander à ces gens qui ont une hypertension pulmonaire de marcher pendant 6 minutes. Hein, béton, on les prend ici, ils vont faire, pendant 6 minutes, on a un chronomètre et on regarde la distance de marche. Et qu'est-ce qu'on observait? C'est qu'en 6 minutes, ces malades pouvaient, vous voyez la barre verte par rapport, qui était un malade traité par rapport à la barre bleue, les malades marchaient 70 mètres de plus en 6 minutes. Si vous parlez pour une heure, ça fait 700 mètres. Hein, si vous demandez à un entraîneur d'athlétisme de faire marcher quelqu'un en une heure 700 mètres de plus, vous voyez que c'est quelque chose d'énorme chez des malades très sévères, qui n'avaient, avec un comprimé, deux fois par jour. Donc, c'était un résultat absolument spectaculaire. Et ce qui était intéressant, c'est simplement décrire, lorsqu'on leur demandait comment les gens se sentent, c'est-à-dire qu'on pose des questions assez simples à ces malades, on leur demande, est-ce que vous êtes capable de monter les escaliers, d'avoir une vie normale, ou est-ce que vous pouvez faire des efforts, est-ce que vous pouvez avoir une vie normale, ou est-ce que vous êtes obligé de rester couché au lit toute la journée? Et vous savoir que il y avait, dans notre étude, on avait pris des malades qui étaient dans phase 3, c'est-à-dire qu'ils pouvaient absolument pas avoir une vie normale. Ils n'étaient pas couchés au lit tout le temps en permanence à l'hôpital, mais ils ne pouvaient pas absolument sortir de chez eux, avoir une vie normale. Et voyez qu'au départ, hein, donc on prend la barre verte, ils étaient tous dans cette situation, et la moitié se sont améliorés et pouvaient avoir une vie normale. Ils ne pouvaient pas faire d'exercice violent, mais ils pouvaient avoir une vie normale. Donc, tout de suite, on a vu que la moitié de ces malades revenaient à une vie normale, ce qui était un effet spectaculaire. À ce moment-là, c'était assez intéressant, et il y a des gens qui sont même ici dans la salle qui se sont dit, mais avec ces résultats-là, il faut enregistrer ce produit. On peut pas, statistiquement, il y avait une chance sur, je sais pas combien, que ce soit qu'il y ait un effet du hasard, c'était pas possible. Et là, je dois dire que les autorités d'enregistrement ont été très compréhensives parce qu'ils se sont dit, oui, il y a quelque chose vraiment de fantastique dans ce produit. Les autorités européennes et américaines nous ont dit, écoutez, on va commencer la processus d'enregistrement de ce produit, mais refaites une étude pour savoir si vraiment vous confirmez ces résultats, parce que c'était quand même des résultats assez incroyables. Et alors ça représentait, je vais peut-être pas aller dans le détail, simplement pour montrer aussi que dans cette étude, dans la première étude, j'ai dit que non seulement la moitié des malades s'amélioraient, mais il y avait des gens qui sont aggravés. Et il y avait 25% des gens qui sont aggravés sur 38 malades. Ils étaient tous sous placebo. Aucun des malades qui étaient traités ne s'était aggravé. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire comme effet. C'est la raison pour laquelle c'était intéressant. Et on pouvait d'ailleurs se poser la question, ralentir l'enregistrement d'un produit pendant 1 an, ça veut dire ne pas traiter pendant 1 an des milliers de malades. Les gens, quand on pense à ce que ça représente au point de vue nombre de gens qui sont morts parce que pendant 1 an, ils n'ont pas pu avoir accès à ce produit, on peut se poser des questions. Mais évidemment, les autorités avaient besoin d'une confirmation. Alors la confirmation, c'était une étude qui s'appelait BRIS 1. Cette fois-ci, on avait besoin d'un plus grand nombre de malades, donc 27 sites, 213 malades, donc 4 fois plus de malades. Mais on a profité de cette grande étude pour pouvoir, cette fois-ci, faire des études à plus long terme et pour pouvoir suivre cette cohorte de malades par la suite. Donc, et on a testé 2 doses, 250 et 125 mg. Cette fois-ci, on a testé pendant 12 semaines et après, on a continué à les suivre pendant 12 autres semaines. Et on a mesuré l'état clinique et puis aussi les hospitalisations, la mort ou le besoin d'avoir d'autres produits. Évidemment, on a confirmé, je crois que c'était, on a confirmé ces données avec un effet, vous voyez, quand on appelle P0002, ça veut dire qu'on a 2 chances sur ici 10 000, que ça soit par hasard. Donc, c'était évidemment un effet du produit. Et de façon, les gens s'amélioraient avec des index sur comment ils étaient essoufflés. Et lorsque l'on constatait, lorsqu'on regardait l'aggravation, c'est-à-dire le nombre de gens qui s'aggravent, on voyait que 37% des malades sous placebo s'aggravaient pendant l'étude, alors que seulement 11% sous effet, sous produit s'aggravaient. Donc diminution par 3 de l'aggravation de la progression de la maladie. Donc on avait non seulement montré qu'on améliorait l'épreuve de marche, mais on améliorait la qualité de vie, pardon, la qualité de vie, on améliorait les symptômes, mais on prévenait la progression de la maladie. Si on regardait la dose, parce qu'on avait besoin de savoir la dose, on voyait qu'il y avait peut-être une petite amélioration par rapport aux 250 vis-à-vis du 125 mg, mais lorsque l'on regardait l'aggravation de la maladie, vous voyez les courbes vertes, les 2 courbes du haut sont superposées, il n'y avait pas de différence entre 125 et 250. L'effet était prolongé. On a pu regarder, par exemple, avec des appareils d'échographie, la taille du cœur et on a voyé une amélioration disons, de la forme du cœur, de son amélioration. Et l'effet secondaire, et c'est pour ça qu'on a choisi la dose, on avait vu un seul effet secondaire vraiment qui était à surveiller, c'est que chez certains malades, il y avait des effets sur le foie et qu'il fallait, chez certains malades, arrêter le produit si on voyait une augmentation de certains paramètres dans le sang. Donc on avait déterminé l'efficacité et déterminé les effets secondaires. Je peux dire que depuis ces études, il y a eu 40 000 malades qui ont été traités. On n'a jamais eu, enfin, je touche du bois, vraiment d'accident grâce à cette surveillance, grâce au fait qu'on a pu déterminer ces problèmes hépatiques. Et lorsqu'on a suivi ces malades, Et le professeur Ménard, qui est ici, lorsqu'il avait vu ses premières études, m'a dit qu'il est absolument indispensable de suivre la cohorte de malades. Alors les malades, après qu'on ait vu cet effet évidemment spectaculaire, on ne pouvait plus les traiter sous placebo. Donc on a tous été obligés de les traiter, évidemment, pour eux, par le produit. Donc on ne pouvait plus faire de comparaison, par exemple, pour la mortalité. Donc on ne pouvait que faire une comparaison entre ce qu'on a observé, c'est la courbe du haut, point de vue mort des malades, et ce qui était prévu, qu'on connaissait de la mortalité avant l'apparition de ce médicament, et donc ce qu'on appelait ici la courbe prévue de mortalité. Vous voyez qu'on diminuait entre la courbe, mais ça, ce n'est pas une preuve formelle, puisque c'est un suivi des malades avec une comparaison avec un groupe théorique. Donc évidemment, pas de preuve formelle, mais une forte indication que grâce à ce traitement, on changeait complètement la mortalité. Et cette maladie, on a pu transformer cette grâce au Traclear, une maladie orpheline qui était mortelle en quelques années, en une maladie qui aujourd'hui est bien traitée, avec des survies maintenant des gens qui sont traités sous Traclear depuis 8 ans, 9 ans, qui ont une vie normale, qui reprennent leur profession. Donc grâce à ce médicament, on a pu complètement changer le devenir de ces malades. Alors ça ne s'est pas arrêté là, c'est ça que je vous montre le développement. On ne s'arrête pas ici. Lorsqu'on a un tel produit, et on peut regarder, on a voyé l'hypertension artérielle pulmonaire, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a décidé, par exemple, d'utiliser ce produit chez des malades qui ont une malformation cardiaque. Vous savez, peut-être les gens qui ont ce qu'on appelait, qu'on voit de moins en moins, heureusement, parce qu'il y a la chirurgie, mais des gens qui ont cette maladie bleue. Et je vais expliquer comment ça se passe, pourquoi est-ce que les gens deviennent ce qu'on appelle cyanosés, c'est-à-dire que leur sang n'est plus bien oxygéné. Ce sont des malades qui ont, entre le ventricule gauche, donc qui est le ventricule qui pompe le sang à forte pression, et le ventricule droit, qui est la partie du cœur qui pompe le sang dans les poumons, qui a moins forte pression, ils ont une ouverture entre ces deux ventricules. Et dans un premier temps, le sang va donc de la pression haute, ventricule gauche, à la pression basse, ventricule droit. Mais au bout d'un certain temps, la pression commence à augmenter dans le ventricule droit. La pression augmentant, la pression augmente aussi dans l'artère pulmonaire. Les artères pulmonaires vont commencer à se dégrader, s'épaissir parce que la pression est élevée. Donc, pour lutter contre cette pression, les artères s'épaississent et la pression va augmenter dans ce ventricule droit. Et si les malades ne sont pas opérés, malheureusement, et ça a été longtemps, il y a 20 ou 30 ans, les gens n'opéraient pas, il n'y avait pas les possibilités les chirurgies n'étaient pas aussi perfectionnées que maintenant. Et par exemple, il y a aussi les enfants trisomiques, malheureusement, n'étaient pas souvent opérés. Donc, ce qui va se passer, c'est que le ventricule droit va avoir une pression qui va être plus élevée que le ventricule gauche, parce que la pression augmente. Et la circulation du sang va s'inverser. Et donc, comme la pression devient à ce moment-là plus élevée, vous voyez que le sang va passer de droite à gauche à travers cet orifice. Donc le sang ne passe plus au niveau des poumons, il va directement dans le ventricule gauche, il est plus oxygéné, et c'est à ce moment-là que les enfants deviennent bleus. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger. Et c'est un syndrome évidemment très grave parce que y a un cœur qui s'abîme et il y a une mauvaise oxygénation du sang et des malades très affaiblis au point de vue exercice. Et ben on a décidé. Alors c'était quelque chose qui paraissait aussi complètement perdu, une cause perdue. Tout le monde nous disait, bon, c'est des gens qui ont été pendant 20, des enfants qui ont été pendant 20 ou 30 ans, ou des adultes qui ont été pendant 20 ans sans traitement. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a décidé de sélectionner, ça a été très difficile, ça a été la première vraiment étude randomisée chez ce type de malade. On a décidé de tester le Traclear. Un groupe traité par Traclear, un groupe traité par placebo. Et à notre vraiment grande surprise, première chose, c'était que les résistances, c'est-à-dire que dans le poumon, les pressions baissaient. Et encore une fois, on pouvait mesurer une amélioration très significative de la distance de marche de ces malades. et une amélioration, alors je ne vais pas aller dans le détail, de leur état fonctionnel. Et donc récemment, les autorités d'enregistrement ont considéré que le trachyre devait être donné chez ces malades et que l'indication était acceptée. Voilà, simplement, et bien d'autres études sont en cours en ce moment, évidemment, avec le trachyre, je ne veux pas aller dans le détail, mais je crois que vous en êtes passé à travers un processus. Vous avez vu la phase 1, détermination, la preuve du concept, regardez quelles indications chez lesquelles ça marche, et après un développement qui marche pas toujours, ça a été le cas de l'insuffisance cardiaque et dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà, en quelques mots, un développement clinique. Donc maintenant, on va parler finir la partie vraiment scientifique et technique de ce cours, et on va parler un petit peu de la biotechnologie et de l'aspect du modèle économique. Alors, quel est le bon modèle économique? Vous avez vu tout de suite, là, on se pose la question, ça vient tout de suite, on se dit, mais pourquoi on fait comme ça, pourquoi Actelion a fait quelque chose. Et alors, quand je vais parler du modèle économique, évidemment, c'est mon point de vue. Et il n'y a certainement aucune recette miracle. Et je pense que tous les points de vue sont certainement intéressants. Donc, je vais plutôt vous donner mon point de vue personnel. Je crois que c'est important, dans ce cours, de parler du modèle économique. Parce que le but du Collège de France, de la Fondation Bettencourt, c'était de favoriser, si possible, la création en France d'entreprises de biotechnologie et de donner à certains, j'espère que certains ont peut-être l'idée de se lancer, et vraiment je les conseille, je leur dirais que c'est quand même une aventure formidable. Donc c'était le but. Mais il faut savoir, on a vu la partie technique, maintenant il faut savoir qu'est-ce que ça comporte et comment on peut créer une société qui a une chance de survivre. Parce que les fonds, alors dans la majorité des pays, ils sont d'origine privée et le financement, c'est quelque chose d'important. Et le fonctionnement économique, c'est important. On a dit que par rapport aux États-Unis, il y avait sur 20 entreprises de biotechnologie, les 20 plus grandes, 19 sont aux États-Unis. Et seul Actelion est en Europe. Et beaucoup d'échecs économiques, en particulier en Europe, sont dus à un mauvais choix de modèle économique. Alors, ce qu'il faut savoir, et j'espère que j'ai essayé de décrire, c'est qu'avant de considérer le modèle économique, il y a des points à considérer. La durée des projets. J'espère que je vous ai donné une idée des durées. C'est pas immédiat du tout. Actelion décrit aujourd'hui des orexines, des antagonistes de l'orexine. Juste avant de partir, j'ai croisé un employé de un collaborateur d'Actelion, il m'a dit, eh ben oui, je suis vraiment content de voir la publication de ces résultats parce qu'en 1999, c'est moi qui ai exprimé le récepteur ou qui ai fait les premiers tests sur les récepteurs. C'était en 1999, hein, donc ça fait 8 ans. Donc c'est quelque chose, la durée, qu'on sous-estime. Et si vous partez pour créer une société de biotechnologie, mettez-vous bien ça dans la tête, ça prend plus de temps que ce qu'on croit. Les risques qui sont élevés, très élevés, et les investisseurs, malheureusement, n'ont pas la même idée du temps. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus ici, il n'y en a pas beaucoup, je crois, mais ils ont la notion de durée n'est pas tout à fait bien comprise. Il y a souvent une dissociation entre ce qu'ils attendent et la réalité. Bon, c'est un élément très compétitif. Savoir que si on dit on est dans un domaine, on dit il n'y a aucun compétiteur, c'est mauvais signe. Parce que si on est dans un domaine intéressant, il y a des compétiteurs. Et les conditions économiques changent très très vite. Il faut adapter la société aux conditions économiques. Alors j'ai toujours dit qu'à peu près, si on regarde une société, il y a des cycles de 3 ans. Alors, il y a une phase initiale qui va durer 3 ans, que j'essaie de décrire, qui sont la phase d'investissement. C'est un petit peu la phase, bon, finalement, on n'a pas besoin d'être jugé. Les investisseurs donnent leur argent, on crée la société, tout est beau. On n'a pas une notion de résultat fondamental. Et puis, les résultats doivent commencer à arriver au bout de 3 ans. Et il va y avoir une phase de consolidation où la société vraiment va commencer à se structurer, va passer de, disons, de 10, 15 à 50, 60, 100. Et cette phase, elle est très difficile parce qu'on passe de la phase familiale où on se voit tous dans la même pièce. C'est toujours ce qu'on dit, décrit. Ça se passe dans, disons, en famille. Et là, on est quand même, on recrée la société. Et après cette phase de consolidation, il y a une phase où vraiment il faut avoir une société qui fonctionne profitable. C'est une phase que moi, je dirais encore 3 ans. Et très simple. Au bout de 9 ans, soit on réussit, soit on disparaît. Et disparaître, ça ne veut pas dire que la société disparaît, ça veut souvent dire qu'on est racheté. Ça peut dire que. Mais on ne peut pas rester indépendant si au bout de 8 ou 9 ans, on n'a pas réussi vraiment à amener quelque chose. Donc, comment ça se finance sur le problème? Au début, ce sont les investisseurs, ce qu'on appelle ça peut être des gens privés, ça peut être des gens avec le capital risque. Ça peut être ce qu'on appelle des business angels. C'est des gens qui ont déjà créé une société, qui ont envie d'investir dans une autre société. Simplement, un conseil, des professionnels, méfiez-vous du richissime investisseur qui a envie d'investir sur le médicament parce qu'il a envie d'en parler le soir avec ses amis. Ça, c'est très risqué parce que c'est un métier tellement difficile qu'il faut comprendre des difficultés. Tous ces gens qui ont investi, qui font ça de façon privée, au moindre problème, ils ont tendance à dire, moi, je n'investis plus, c'est pas possible. Il faut vraiment des gens qui ont l'habitude de ces problèmes. Alors, après la phase de consolidation, ça continue à être les gens de capital risque. Il y a des fonds spécialisés dans cette phase de transition. Et puis, ça peut être l'entrée en bourse dont j'ai parlé, j'ai mentionné comment on faisait une entrée en bourse. Et après cette entrée en bourse, dans les 3 dernières années, ce sont des investissements qui se font par des processus très spécifiques, comme les augmentations de capital ou les emprunts convertibles. Alors, il faut savoir que parmi ces 3 étapes, il faut bien se distinguer. À chaque fois qu'il y a un délai, c'est très, très, très dangereux. Le temps est très important. Si on a annoncé qu'on va avoir telle chose arriver, c'est beaucoup plus. Il faut mieux être conservateur dans sa notion de délai parce que tout le monde va perdre confiance s'il y a un délai. Donc les délais sont très dangereux. Et ils sont très dangereux parce que souvent les investisseurs vont profiter de ce délai pour changer les conditions économiques. Et petit à petit, et c'est ce qu'on voit dans tellement de sociétés, les fondateurs, les gens qui ont créé cette société initiale, au début ils ont 100% des actions, après 50, 40, 30, et ils disparaissent. Parce qu'à chaque fois, les investisseurs changent les rois et ils sont dans une position de plus en plus de force. Et à la fin, la société appartient à un investisseur et je crois que l'âme de la société peut disparaître. Donc cette perte de contrôle du capital est importante. Et enfin, et ça c'est encore le plus important, il ne faut pas que les cadres de la société passent leur vie à faire le tour du monde pour chercher l'argent. Leur travail, c'est de faire fonctionner la société. Donc, si vous créez une société, ne partez pas sans avoir la sécurité d'avoir ces 3 premières années. Et puis, pensez à ce cycle de 3 ans. Et à chaque fois, essayez d'avoir de l'argent pour les 3 ans qui viennent. Alors, les modèles, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des tas de façons de faire des modèles économiques. Et je veux surtout pas penser, il faut surtout pas penser que Actelion, c'est le seul modèle. C'est un modèle qui a marché. Je peux vous dire qu'il y a des tas d'autres modèles qui ont marché. Et si vous êtes imaginatif, et je ne veux pas enseigner l'innovation en disant qu'il faut faire la même chose que nous. Par définition, si vous êtes innovatif, trouvez un autre modèle qui fonctionne bien. Mais essayez de prendre un petit peu en considération les problèmes que j'essaie de décrire. Il peut y avoir une société de service. On a décrit, vous avez vu, toute la difficulté de faire un développement clinique. Il est tout à fait possible de faire une société qui va aider une autre société en faisant le développement clinique, en fabriquant le produit, en faisant les études statistiques, en faisant. Donc, c'est cette société qui va aider une société pharmaceutique. Il peut y avoir une société qui va se baser sur le développement technologique. On a parlé des microchips où les gènes sont inscrits. Une société Affymetrix est née de cette technologie. Elle a vendu ces méthodes de diagnostic aux autres société, donc il est possible de baser une société sur un développement technologique. On peut être une société qui ne fait que de découvrir les médicaments et ne pas les développer. Pas les développer chez l'homme, pourquoi pas? On peut être une société qui décide de les découvrir, de les développer, mais de jamais les vendre. On se dit, c'est pas pour nous le marketing. Ou être une société qui ne découvre rien, mais qui décide d'acheter des produits et de ne faire que les vendre. Tous ces modèles, il y a des exemples de sociétés chez qui ça a fonctionné, chez Melen, et on peut créer une société avec du succès en adoptant chacun de ces modèles. Alors, société de service, évidemment, la mise en place, elle est immédiate. Il n'y a pas de recherche à faire. Elle nécessite beaucoup moins de capitaux. Il suffit d'embaucher 20 personnes et puis on peut créer une société de zéro. Donc, le risque est faible. Mais à ce moment-là, la croissance, elle va uniquement dépendre de la taille. Pour croître dans une société de service, il faut avoir 20 employés, 30 employés, 40 employés. Et des sociétés comme Quintiles sont 20 000 employés qui font du développement clinique pour les autres. Donc il n'y a pas une façon facile de croître, une façon, disons, rapide. C'est, disons, la croissance, presque, elle est proportionnelle au nombre d'employés. La propriété intellectuelle est vraiment presque nulle, à moins d'avoir vraiment une méthodologie très spéciale. On dépend évidemment des commandes faites par les autres sociétés et, disons, les marges économiques sont bien inférieures et la compétition, évidemment, si on réussit, par exemple, Quintiles, aujourd'hui, il y a 20 ou 30 sociétés de services ou même beaucoup plus. Donc la compétition arrive tout de suite. Voilà. Mais il est possible de créer une société de services en biotechnologie et d'avoir un grand succès. La société basée sur la technologie, là aussi l'investissement, là il y a la propriété intellectuelle. Donc on peut protéger sa société parce qu'on a une nouvelle technologie. En général, l'investissement est quand même plus modéré par rapport au développement clinique. Le temps est beaucoup plus rapide. Si on a une découverte très claire, on prend par exemple j'ai pris Affymetrix, on peut assez voir le marché. Et je pense que dans ces domaines-là, l'industrialisation est quand même assez facile. Le problème, c'est que ces découvertes ont en général un cycle de vie court, la compétition est très rapide. Si vraiment on fait une découverte, puisque c'est assez rapide de créer la société, la compétition est aussi assez rapide. Et le grand risque, c'est qu'une technologie devient accessible à tous. Il y a des sociétés qui ont été basées sur le décryptage du génome humain. Aujourd'hui, tout le monde a absolument accès à toutes les données sur le génome humain. Donc, ces sociétés perdent leur avantage technologique. Très difficile dans un monde qui vit très vite de garder un avantage technologique. Alors, la société qui peut être basée sur des médicaments, évidemment, a les avantages d'avoir cette propriété intellectuelle, d'avoir des marges économiques élevées, et surtout, ce qui est très important, d'avoir une globalisation possible. C'est-à-dire que Traclear est vendu dans le monde presque immédiatement. On a pu se lancer au Japon, aux États-Unis, Europe. Donc, cette globalisation du modèle économique est évidemment un énorme avantage. Mais vous avez vu, le développement, évidemment, est très long. Les financements doivent être énormes. Le risque, évidemment, est très grand. Et la compétition est évidemment aussi intense. Alors, les risques, j'en ai parlé tout au long et je crois qu'il faut le savoir. Lorsqu'on fait un médicament, les risques, vous avez vu, ils sont scientifiques, parce que le mécanisme va marcher. Mais ils sont aussi le risque aussi du développement. Et bien que les gens l'oublient, le plus grand risque, c'est le risque au niveau de la mise sur le marché. C'est là où les sommes énormes vont être mises en jeu. Et il faut savoir que presque 2 sur 3 mises sur le marché n'arrivent jamais à être profitables. Il est très, très difficile, sur un marché très compétitif, d'avoir un bénéfice. Donc le risque scientifique, on a parlé d'efficacité, des effets secondaires, que le produit soit pas meilleur que le produit existant et ou que le risque par rapport au bénéfice soit insuffisant. Ça représente les risques, ce que j'appelle scientifiques, les risques de développement avec l'erreur de dose, un développement qui peut être aussi se révéler alors trop difficile. Une société de biotechnologie qui décide aujourd'hui, par exemple, de lancer dans l'athérosclérose n'a aucune chance d'arriver au bout d'un développement clinique. C'est 20 000 malades. Seule une grande société peut faire un tel développement. Donc, il faut choisir des indications qui sont faisables. Et il peut y avoir un désaccord avec les autorités d'enregistrement. Donc, je vais parler de cette risque sur la mise sur le marché. C'est très difficile de mettre un produit sur le marché parce que bon, les ventes peuvent être insuffisantes, mais aussi les frais peuvent être trop importants. Il faut savoir que mettre un produit sur le marché, ça ne veut pas dire simplement de créer une force de vente, mais il faut avoir une société sur place, il faut avoir des gens qui vont discuter avec les autorités, il faut créer une infrastructure locale avec des comptables de façon locale, des gens qui s'occupent des problèmes légaux, des chefs du personnel, des responsables de. Donc, il y a énormément de choses qui vont supporter cette mise sur le marché. Ça représente des frais très importants. Et évidemment, on a toujours ce risque de mettre sur le produit, un produit sur le marché et qu'un effet secondaire apparaisse, qui ne soit pas prévu, et le médicament soit retiré du marché. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté, et j'insisterai toujours sur ces effets secondaires. Toutes les sociétés qui essaient de se voiler la face, en essayant de dire mais cet effet secondaire n'est pas un véritable effet secondaire, s'expose à un énorme problème une fois que le produit est mis sur le marché, parce qu'il y a toujours une vérité dans le produit. S'il y a un véritable effet secondaire, il se verra. Il n'y a pas de façon aujourd'hui d'occulter un effet secondaire. Donc il faut beaucoup mieux le savoir, il faut beaucoup mieux arrêter un produit tôt que de mettre un produit sur le marché, faire des investissements qui peuvent être de l'ordre de milliards d'euros pour lancer un produit et être obligé de retirer le produit du marché. Évidemment, aujourd'hui aussi aux États-Unis, si un produit a un effet secondaire qui était détecté, à ce moment-là, les avocats se mettent, commencent leur activité et les class actions, c'est-à-dire que des milliers de malades se regroupent pour poursuivre une société, peuvent tuer une société qui peut être une société comme Merck et menacée dans sa survie par, par exemple, la class action sur le VRS. Donc, on peut se poser la question, on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on a eu notre force de vente? Pourquoi Actelion a décidé de choisir de vendre son médicament? Parce qu'en finalement, on était des chercheurs. Pourquoi s'embêter avec toute une force de vente? Mais il faut savoir que bon, ça nous permettait de retenir la plupart de la valeur du produit. Et ça, donc, grâce à ces revenus, on savait que nous pouvions investir. Et aujourd'hui, les résultats que l'on montre sur l'orexine, sur les autres produits, sur les inhibiteurs d'arénine que l'on développe, ce sont des résultats obtenus grâce aux revenus du Traclear. Deuxièmement, on contrôle le produit. Lorsque l'on donne un produit à développer à un partenaire, on perd le contrôle. Si ce partenaire décide de changer d'orientation, décide de faire un merger avec une autre société, ou enfin de fusionner avec une autre société, on perd ce produit. C'est une société bouge avec le temps, on ne sait jamais lorsqu'on donne un produit à notre société ce qui va se passer 5 ans, 6 ans, 10 ans après. L'autre avantage, c'est que on a pu, par exemple, j'ai cité les cas de ces maladies cardiaques congénitales, le retour du marché lorsque les médecins sont, par exemple, ont un malade avec, on essaye chez un malade, ils peuvent vous donner une indication que ce produit va marcher chez un tel malade. Si on n'est pas en contact avec le marché, on perd cette information, donc on perd la possibilité de faire d'autres découvertes. Et enfin, mis sur le marché veut dire pharmacovigilance, et pour les produits qui ont un risque sur le marché, il est très important de faire soi-même sa pharmacovigilance. Donc ce département commercial, quand on dit mettre sur le marché, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors les gens pensent toujours, ça veut dire marketing. Oui, mais il n'y a pas que le marketing. C'est-à-dire qu'il va falloir former des visiteurs médicaux. Alors, il faut leur expliquer ce que c'est que l'hypertension pulmonaire, comment ça se passe. Il va falloir acheter des voitures, il va falloir avoir toute une infrastructure. Ça veut dire d'aller continuer à faire des études localement pour que les gens connaissent ce produit. Ça veut dire ce qu'on appelle faire un marketing médical, c'est-à-dire expliquer aux médecins le fonctionnement, l'utilisation, organiser les congrès où les médecins vont pouvoir être exposés à ces produits. Donc, pour une personne qui va être en contact avec le médecin, il y a au moins une autre personne qui va s'occuper du support. Donc, il y a des sociétés qui ont utilisé des modèles très différents. Alors, Genentech, Amgen, les grands succès sont quand même les sociétés qui ont fait tout depuis la découverte jusqu'à la mise sur le marché. Ce sont les succès les plus grands, point de vue taille. Des sociétés comme Genset en France ont disparu parce qu'ils se sont basés sur une technologie et la technologie est devenue banale. Et finalement, ils ont été rachetés, dans ce cas de Janssen, par Serono, qui a été racheté par Merck. C'est un petit peu comme dans la chaîne, dans les océans, les petits poissons sont mangés par des plus grands et des plus grands. Decode, une société qui était aussi basée sur les problèmes, sur la connaissance du génome humain. Et Decode s'est rendu compte que les dépenses qu'elle avait dans sa recherche étaient trop importantes pour pouvoir être subventionnée par sa recherche. Donc, elle a fait quelque chose que je trouve très dangereux, c'est de changer le modèle. Et donc, Decode a d'énormes problèmes aujourd'hui parce qu'ils essayent de faire une société qui fait du développement sans en avoir les connaissances. Donc, je crois qu'un bon conseil, ne changez pas de modèle. Si vous choisissez un modèle, ici c'est un modèle technologique, restez au modèle technologique, mais faites-le le mieux possible. Essayez de trouver des variations, mais ne changez pas de modèle. British Biotech, disparu, c'est une société qui voulait tout faire, mais s'est pas rendu compte des difficultés du développement. Et là aussi, encore une fois, du temps. Et une société qui avait des milliards, qui a consommé des milliards d'euros qui ont été dépensés dans le développement en voulant tout faire en même temps, tout faire en parallèle, et finalement, rien n'est sorti. Oxford Glycoscience, société qui est basée sur la technologie qui était la protéomics, c'est-à-dire la découverte découverte des protéines, l'importance de leur rôle. Société technologique a décidé de développer des médicaments eux-mêmes, sans avoir aucune connaissance du développement. Échec, rachat par Celtec, qui a été ra lui-même racheté d'ailleurs par UCB maintenant. Donc, encore une fois, changement de modèle en cours de route, au milieu de la rivière, au milieu du gué, on ne change pas de monture. Et puis Morphochem, société basée sur une technologie, encore une fois, c'était la chimie parallèle. Il y a une certaine mode de formation, de synthèse de produits, qui a décidé aussi de devenir une société qui fabriquait et vendait des médicaments. Et encore une fois, échec. Car la culture de la société, c'était une société faite avec des chimistes, ils n'avaient aucune idée du développement d'un produit. Donc, j'ai essayé de mettre moitié-moitié, moitié de réussite, moitié d'échec. Mais il faut dire que beaucoup plus de sociétés échouent. Et je crois que ce que j'ai essayé de faire avec cette description du développement clinique et cette description un petit peu du modèle économique, c'est simplement pour essayer de montrer que y a la partie scientifique est importante, la partie business, la partie économique est aussi importante, et que si en France des sociétés veulent se créer, il faut que absolument les deux aspects soient présents dans la société. Alors voilà, donc c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui sur ce développement clinique, sur le modèle économique. Je crois qu'après, le prochain cours, ce que je voudrais vraiment après décrire, c'est toute la partie culturelle de la biotechnologie, c'est-à-dire que comment on peut arriver à avoir un succès dans la biotechnologie en créant à l'intérieur de la société une culture différente. Voilà, merci beaucoup.